Il était une fois une jolie princesse, prisonnière du vilain Polovio, qui régnait sur un pays grand comme... avec plein de forêts inextricables. Elle était gardée par le dragon Fark, aux multiples têtes. Alors, la famille vint trouver le prince charmant, Beau Sarko, qui, n'écoutant que son courage, enfourcha son destrier portefeu et courut dans ce lointain pays libérer la belle princesse. Quand il eut coupé la tête, la dernière tête de Fark, le dragon, il l'emmena dans son beau palais où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est beau les contes. Hein. C'était Michel à Autignac dans le 34. Voilà. Bonne journée à tous.
Et salut à tous, alors des nouvelles des étudiants de Montpellier. Alors bon, c'est bien, l'UNEF négocie, mais nous ce qu'on veut, c'est pas des négociations. Nous on est bien déterminés pour se battre jusqu'au bout pour l'abrogation de la LRU et surtout pour la défense du service public. Alors malgré tout ça, alors que une démobilisation était annoncée, Montpellier 3, la fac de lettres de Montpellier, a massivement voté le blocage hier, et aujourd'hui c'est au tour de la fac de sciences, qui avait pourtant voté le déblocage il y a peu si longtemps, et ben là maintenant c'est reparti. Alors bon vent à toutes les facs bloquées, bon courage à toutes celles qui se mobilisent, et puis n'hésitez pas à rejoindre les étudiants et les personnels des universités pour qu'on défende tous ensemble le service public et qu'on arrête de se battre chacun pour son petit bout de pain. Allez, salut.
À ma droite, une poignée de multimilliardaires. Ils sont tout glauques et tout pleins de morgue, tout boursouflés de certitude, tout suintant de mépris. Bah, ils sont tout vilains. Leur objectif, nous extorquer nos derniers petits sous pour les engranger encore et encore jusqu'à l'écœurement. Leur arme, un libéralisme forcené et aveugle. Oups, pardon. Une concurrence libre et non faussée. Mais aussi un État collaborateur et des médias à quatre pattes satisfaits de leur laisse. Courte mais en velours et soie. À ma gauche, les membres de 29mai.ue. Ils sont généreux et joyeux, la tête illuminée de rêves et de projets. Oh Dieu qu'ils sont beaux. Leur objectif, bloquer l'adoption par l'Assemblée nationale du traité dit simplifié. Leur arme, un grain de sable juridique à positionner judicieusement entre les rouages dorés du capitalisme. Oh joie! Laquelle, toutefois, ne saurait être complète sans le plaisir de la partager avec vous. Alors, dès le générique de fin de l'émission, rejoignez-nous sur 29mai.ue. Un détail qui a son importance en ces temps difficiles. Quelle que soit l'issue du procès, je dis bien quelle qu'en soit l'issue, le dépôt d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme présente l'avantage considérable de n'engager que les frais d'honoraires de l'avocat représentant le collectif. Aucun dédommagement ne peut être réclamé par la partie adverse, en l'occurrence l'État français. Donc, pour le prix d'un paquet de cigarettes ou d'une ou deux bières, bloquez le Parlement. Et en plus, ça, c'est bon pour la santé. A tout de suite. C'était Eric de Lille.
Bonjour Daniel. Je suis un Sénégalais, je suis chauffeur routier, je vis en Italie. J'écoute votre émission qui est très intéressante. Mais je voudrais seulement vous dire que pour moi, pour rien au monde, je viendrai vivre dans votre pays. Parce que il y a 53% de Français qui ont voté Michel Sarkozy. Et ça veut dire qu'il y a la majorité des Français qui sont en train de devenir racistes. Et je suis désolé, c'est comme ça. Et je voudrais seulement vous demander une chose là, parce que souvent j'entends à la radio les Français expatriés, mais jamais le Français immigré. Ça, je voudrais que vous me faites un éclairage là-dessus, s'il vous plaît, parce que je n'ai jamais entendu dans votre radio un Français immigré, toujours Français expatrié, et les autres sont des immigrés, par contre. Merci beaucoup, salut, ciao.
Bonjour, moi je vais vous donner un truc sur l'immigration, mais dans l'autre sens. Voilà, quand j'étais cuisinier, j'ai travaillé pour une grosse société qui m'a envoyé au Cameroun. On m'a demandé de marquer sur mon passeport agent technique comme métier. Le Cameroun ne voulait pas de cuisinier. Je me suis retrouvé à la douane de Douala, une douane militaire hein, de ce pays, et ils avaient senti le gros mensonge. Donc après 2 heures de garde à vue, mon intendant est arrivé et leur a donné un bakchich. Et j'ai pu être libéré et j'ai travaillé 3 mois au noir sur une plateforme de forage.
Bonjour Daniel, c'est Françoise du Loir-et-Cher. Je viens d'écouter l'émission sur l'expulsion de Gloria et sa famille. Et je suis très émue. Je voudrais dire, je suis outrée, dégoûtée de ce gouvernement et de sa politique d'expulsion des gens comme des malfaiteurs. On les met dans des avions et on les éjecte comme des fétus de paille. Ça me dégoûte. Je ne peux pas dire. Franchement, ça. Au revoir.
Je vous annonce une grande nouvelle. Le dimanche 25 novembre, le matin, à 9h30, j'ai entendu Bernard-Henri Lévy sur France Culture qui annonçait et répétait à deux reprises. Dieu créa la terre, donc à nous les hommes de la conserver. Et voilà, nous avons un philosophe créationniste. Merci. Et guette des palaisons.
Oui, bonjour, Ariane Bella du Café Gervaise pour vous annoncer le rendez-vous des AMG de Genève le mardi 4 décembre 2007 dès 19h. Au revoir, merci. Au Café Gervaise.
Oui, vous voulez demander à M. Mermez qui perdait ses voyages pour aller dans tous ces pays. Est-ce que c'est le parti de gauche? J'aimerais savoir.
On va vous faire plaisir parce qu'avant de partir pour la Colombie, on s'embarque aujourd'hui pour la Colombie, on va faire un petit détour par Paris, c'est pas loin, ça c'est pas cher. Deux tickets de métro, un ticket pour l'enfer et un ticket pour l'honneur du général. L'enfer, c'est une exposition magnifique, formidable, que vous allez courir, voir, déguster, savourer à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, qui s'intitule « Héros au secret ». C'est l'enfer de la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire des œuvres, des écrits, des gravures, des photos, des documents de toutes sortes qui étaient mis à l'index pendant très très longtemps dans cette noble institution qu'est la Bibliothèque nationale. Et une exposition aujourd'hui, eh bien, nous va nous permettre de voir, de déguster, de savourer, de regarder à la dérobée toutes ces œuvres. Ça ouvre demain et c'est un bonheur. Et puis on ira aussi à Paris, toujours, rassurez-vous, chère madame, où jeudi, le 29 novembre, était inaugurée une place, un carrefour général de Bollardière, carrefour. Voilà une chose que les taxis vont devoir se mettre dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là-bas, si j'y suis, qui va à l'enfer de la Bibliothèque nationale et ensuite qui assiste à l'inauguration? Et oui, c'est que le général de Bollardière fut le seul officier supérieur à avoir condamné ouvertement la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie, compagnon de la libération, etc. On va évoquer ce général au moment même où notre président de la République est en Algérie face à cette page qui n'arrive pas à tourner. Bien sûr, il faut tourner les pages, mais auparavant, bien sûr, il faut les avoir lues. Or, visiblement, certains n'ont pas envie de les lire jusqu'au bout. Et c'est donc un hommage que nous rendrons à ce général. Général de parachutiste, c'est quand même assez rare dans la base où j'y suis, pour que vous tendiez l'oreille. Et puis ensuite, on partira pour la Colombie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37, deux générations se succèdent dans le répondeur. Écoutez bien.
Bonjour à toute l'équipe. Je lance un appel aux vieilles souches, ces retraités militants vivant seuls. Retrouvons-nous, constituons des petits groupes locaux pour nous entraider, pour mener des actions ensemble, pour soutenir les militants en lutte, pour transmettre aux enfants et aux jeunes nos valeurs. Ainsi, évitons les maisons de retraite et donnons le meilleur de nous-mêmes jusqu'au dernier souffle. Cette société a terriblement besoin de nous. Que les vieilles souches, bien vivantes, intéressées par ma proposition, me téléphonent au 02 99 07 87 83. Alexis.
Salut l'équipe de là-bas si j'y suis et bonjour à tous les AMG toujours aussi modestes et géniaux. C'est Hervé, conducteur d'engin et militant LCR dans le Sud Gironde. Dans le répondeur de jeudi, un auditeur avait fait un mixage artisanal d'un discours sarkozien et je tiens à apporter ma pierre à l'édifice avec ceci.
Il faut que ceux qui travaillent puissent gagner davantage. Et il faut qu'on ne puisse pas refuser un travail quand on est au chômage et qu'on vous propose une offre d'emploi qui correspond à vos qualifications. Deuxièmement, parce que ceux qui se lèvent tôt le matin, comme vous, vous ne pourriez pas comprendre que quelqu'un qui ne travaille pas, à la fin du mois, il est quasiment autant que celui qui travaille. Il y a un problème de travail dans notre pays. La France travaille moins quand les autres pays travaillent plus. On peut arriver au plein emploi. Je m'y suis engagé. On va y arriver. Mais pour arriver au plein emploi, il faut qu'on travaille davantage. Il faut libérer les possibilités de travailler dans l'entreprise. À une condition. Plus exactement deux. C'est que le travail supplémentaire, ça doit être sur la base du volontariat. Et le travail supplémentaire, c'est pour avoir un salaire supplémentaire. Moi, je pense que les Français sont prêts à travailler davantage à partir du moment où on leur permet de gagner davantage.
Eh bien, c'est la suite du discours sarkozien, c'est la suite et fin. Voilà, ce serait risible si ce n'était pas si sérieux. Allez, ciao, viva et portez-vous bien.
À l'aurore, au petit matin, livrée aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire.
Te voici devant la psyché, où toute la chambre s'afflige. Tu balances la souple tige d'un calice plein de péché. Maintenant que te voilà prise aux saveurs du fruit que tu mords, tu te caresses sans remords, toute pâle de gourmandise. La volupté que tu poursuis t'abuse de son artifice, pendant qu'au gré d'un vin délice vont tes soupirs évanouis. Extrait de l'appartement des jeunes filles de Roger Allard, 1914.
Quelle honte sur le service public en plein après-midi, débaucher les oreilles. Nous l'avons entendu, ces chansons plaintives, des plaintes au CSA, quel laxisme, mais oui. Eh bien, aujourd'hui... Tout le monde, sur l'antenne de France Inter, peut entendre des poèmes et des récits comme celui-là, grâce à cette expo formidable qui s'intitule « Héros au secret, l'enfer de la Bibliothèque nationale ». Ça ouvre demain, précipitez-vous, c'est interdit au moins de 16 ans quand même, la traduction est respectée, et on peut y voir nombre d'ouvrages, de livres, de gravures, de photos, d'estampes japonaises, etc. Toutes ces œuvres qui étaient mises de côté, mises dans un rayon particulier de la Bibliothèque nationale, appelé l'enfer. Qui s'est développé, mais il y a des œuvres déjà qui étaient mises de côté au 16e, 17e, 18e, mais au 19e siècle, à partir de 1830, est créé cet enfer. Et puis, il est fermé, ou bien, comme on voudra, ouvert, à quelle date? En 1969, après que, en 1968, on se soit aperçu qu'il était impossible de faire une exposition sur Apollinaire à la Bibliothèque nationale sans que figurent des pièces d'Apollinaire, des œuvres d'Apollinaire qui étaient dans l'enfer. Donc l'enfer a été ouvert à cette époque-là, mais bien sûr c'est pas pour autant que la censure ne fonctionne plus, qu'Anastasie a rangé ses ciseaux, mais quand même en matière de mœurs, on peut saluer tous ceux qui se sont battus contre puritanisme, interdiction et exclusion d'œuvres aussi considérables que celles de Sade, par exemple, dont on voit des manuscrits formidables dans cette exposition, comme de Jean Genet, Georges Bataille, Apollinaire, etc., et des tas d'œuvres inconnues et incongrues. Et surtout, le mérite formidable des organisateurs de cette exposition, c'est de ne pas avoir fait de frontières, établi de frontières entre l'érotisme et la pornographie, la pornographie étant évidemment l'érotisme de l'autre. Alors allez-y, prenez votre temps, passez aussi le plus longtemps possible, parce que c'est très précis, c'est très précieux, c'est parfois des petites choses qu'il faut savoir remarquer. Et l'exposition s'ouvre avec évidemment Thérèse philosophe, cette jeune femme qui fut troublée jusque au-delà du possible par des lectures précisément. Et peut-être le serez-vous, jeune fille, jeune femme prude, en vous promenant dans cette exposition que nous présente Marie-Françoise Quignard. Derrière vous, Marie-Françoise,
oui.
J'aperçois des gravures qui ne laissent aucun doute sur leur nature.
C'est des gravures de l'Aretin, c'est des gravures qui circulaient dès le XVIe siècle et qui ont continué à circuler jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est effectivement les postures des dieux.
Des positions.
Des positions, oui, c'est ça, qui sont très suggestives, enfin, qui peuvent donner envie. Et c'était quelque chose qui circulait beaucoup. Et surtout, disons, au XVIIIe siècle, où, quand ça correspondait au roman libertin. Beaucoup de ces romans libertins, d'ailleurs, se sont servis un peu de ces gravures ou de ces postures pour agrémenter en quelque sorte les livres. C'est le cas, par exemple, de Thérèse philosophe,
qui est un roman... C'est là que tout commence.
Ah oui, c'est là que tout commence. Enfin,
pour vous, en tout cas, c'est là
nous,
que tout commence.
Pour nous, c'est là que tout commence, parce que Thérèse, qui est une jeune femme, une jeune fille, on va même dire, de 25 ans, qui a un certain tempérament, qui...
Une bonne nature.
Oui, elle a une très bonne nature. Dès l'enfance, elle s'est assez vite masturbée. Sa mère n'en était pas très contente et l'a mise au couvent.
On me fourrait au couvent, par ordre de ma mère. On me fourrait au couvent. Mais mon coup pour s'y taire en décide autrement. On me fout. On me fourrait au couvent.
Ensuite, au couvent, elle a surpris des situations qui ne lui étaient pas destinées, mais qui l'ont mise là aussi dans tous ses états. Et puis, elle a partagé la vie d'une prostituée qui, paradoxalement, cette prostituée, elle aussi était vierge. Mais ça n'empêche qu'elle avait beaucoup de succès. Et en fait, elle n'a jamais réussi à se donner véritablement à un homme, même si beaucoup d'hommes ont tourné autour d'elle. Et c'est le comte, son protecteur, qui l'aime véritablement, qui aimerait bien quand même consommer avec elle. Et il trouve un subterfuge dans la mesure où, comment dire, bon, il n'y arrive pas, il lui dit, eh bien, écoutez, je vais vous proposer de faire venir ma bibliothèque de livres galants et d'estampes lascives, d'estampes lascives. Et si vous, je passe un deal en quelque sorte avec vous, je suis sûre que vous n'arriverez pas à ne pas vous masturber pendant ces lectures. Et Thérèse prend ça de haut, considère mais qu'est-ce que c'est, comment dire,
bien, je saurais résister.
bien sûr, je saurais résister. Et en fait, elle va lire des romans, comme des romans de L'Arétin, comme Thémidor. Et puis surtout, elle va lire aussi Dombourg, Portier des Chartreux, qui est vraiment un roman anticlérical. Là, comment dire, elle est déjà en train de perdre ses moyens. Et puis, elle regarde des images lascives, et entre autres, celle-là, enfin, Mars et Vénus, en train de faire l'amour. Et là, elle se dit, non, mais c'est pas possible. Si les dieux font ça, pourquoi moi, je résiste, compte, viens. Et voilà. Et c'est grâce au livre, en fait, et grâce à l'image, qu'elle va se donner au compte et qu'elle va passer du stade de l'adolescence au stade de femme. Enfin,
c'est un avertissement pour toutes les jeunes personnes qui viendront visiter cette exposition, qui risque de sortir dans un état...
Écoutez, oui, on ne sait pas. C'est un risque qu'on prend.
Lorsqu'une femme maligne de son corps forme un cerceau, fouteur, glissez votre pine dans la bonde du conneau. Qu'un autre la foute en bouche et la garce au même instant reçoit une double douche. Rien n'est plus divertissant. Extrait de L'art de foutre en 40 manières, 1789.
Passer de l'amour à la guerre. C'était le hasard de l'actualité qui nous propose ce passage avec un étrange militaire qui s'appelait Jacques Paris de Bollardière et qui fut, je le disais en commençant, le seul officier supérieur à avoir condamné ouvertement la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie, non pas après. En 1957, il tenta par tous les moyens de dénoncer certains procédés en vigueur dans la recherche du renseignement en Algérie et sa prise de position publique lui valut une sanction de 60 jours d'arrêt. Ce qui évidemment n'était pas rien pour un homme et un officier, un général de sa trempe. Il était le soldat le plus décoré de la France libre, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, etc., etc. Alors, à travers ce petit hommage, on va donner son nom, général de Bollardière, au carrefour entre l'avenue de Suffren et l'avenue de la Motte-Piquet à Paris, tout près de l'école militaire, ces militaires donc qui à l'époque l'avaient condamné. On a pensé que c'était intéressant de se plonger un peu dans cette mémoire, dans cette histoire. Rare, il est vrai, tant c'est plutôt quand même le chemin, la dérive inverse à laquelle on assiste, c'est plutôt des gens de gauche qui très souvent passent de l'autre côté. Là, non, c'est un chemin contraire. Ceux de ma génération se souviennent très bien de général de Bollardière. Donc on assiste à cette quelques instants à cette cérémonie avec Charles Sylvestre. Charles Sylvestre est un journaliste qui a longtemps travaillé au journal L'Humanité, au quotidien L'Humanité, et qui anime l'association des Amis de l'Humanité, qui est un très bon connaisseur de cette période. Et puis Armelle Botorel, la fille du général de Bollardière, elle-même lui rend hommage. Écoutez ça en pensant à ce qui est en train de se passer en Algérie, bien évidemment, où l'accueil réservé au président Sarkozy est un petit peu ambigu, dans la mesure où, comme dit le journal Le Monde, du reste, dans ce pays, l'Algérie, une certaine rancœur, vieille rancœur. Peut-être que ces vieilles rancœurs veulent tout simplement dire que certains, là-bas comme ici, n'espèrent ni contrition ni repentance, mais la reconnaissance de la responsabilité non pas de tous les Français, mais du pouvoir français qui a voulu la colonisation et la résistance au juste droit du peuple algérien pour son indépendance. Ces pages-là ne sont pas sont écrites, mais ne sont pas lues jusqu'au bout, et tant qu'elles ne seront pas lues jusqu'au bout, il sera bien difficile d'exiger qu'on les tournât.
Alors, on est où là, brièvement, Charles Sylvestre?
On est au carrefour de l'avenue de la Motte-Piquet et l'avenue de Suffren.
Monsieur le maire de Paris,
Il y a les invalides qui sont pas loin.
Messieurs les maires d'arrondissement, mesdames et messieurs les élus.
Voilà, mais disons surtout...
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
On est au coin de l'école militaire, c'est-à-dire le grand lieu institutionnel de l'armée française. Alors, c'est à cet égard que la plaque générale Jacques-Paris de Bollardière, compagnon de la Libération, a beaucoup de sel.
Au nom de la famille de Jacques-Paris de Bollardière, et tout particulièrement de son épouse Simone de Bollardière, au nom de tous ceux qui ont combattu aux côtés de mon père, dans les sombres heures de notre pays, au nom des personnes sous les deux rives de la Méditerranée, pour lesquelles l'engagement de mon père a été une lumière d'espérance. Au nom de tous ceux qui, avec lui, ont ouvert les voies d'une résolution non violente des conflits, j'adresse tous mes remerciements aux élus de Paris qui ont exprimé unanimement leur volonté d'inscrire le nom du général Jacques Paris de Bollardière, compagnon de la Libération, au cœur de la capitale.
Pour les militaires, évidemment, c'est très intéressant qu'un grand général de parachutistes, compagnon de la Libération, les honore et soit honoré par la proximité de l'institution militaire. Évidemment, ce qu'il n'y a pas sur la plaque, c'est qu'à un moment donné, le général Jacques Paris de Bollardière a été dans un conflit assez violent quand même avec l'institution militaire, puisque premièrement, il a dénoncé la torture, ça, donc en juin 57, et donc à partir de là, il est rentré en France et il a été condamné à 2 mois de forteresse. Voilà. Donc, désormais, au cœur de Paris, il y a un général qui s'est dressé contre l'institution militaire et qui est dans la plaque qui l'honore, est au coin de l'école militaire, la grande institution militaire. Bon, donc ça manque pas de sel.
Bon alors, sous cette petite tente, on a célébré un moment de l'histoire. L'histoire nous intéresse aussi pour le présent. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui, Jacques de Bollardière? Qu'est-ce que son parcours nous rappelle?
Mais ça, je pense que c'est la question la plus intéressante. Parce que l'hommage, c'est une chose qui est normale, c'est la moindre des choses. Mais en même temps, c'est quand même aussi, pas la leçon, j'aime pas le mot, mais quand même la réflexion que ça inspire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le général Jacques Paris de Bollardière, je dirais le plus intéressant, c'est son évolution.
J'évoquerai ici 3 carrefours de l'histoire où les voies choisies par Jacques de Bollardière furent frayées à travers les ronces des préjugés, des conformismes et des idéologies.
Quelqu'un a dit qu'il a traversé les ronces des préjugés. C'est magnifique, ça, cette métaphore et tout. Bon, parce que Bollardière, il est d'une famille aristocratique qui était liée à l'armée coloniale, lié à l'IOT, à toutes ces histoires de la colonisation, du Maroc, etc. Bon, donc c'est pas du tout anti-militariste, c'est pas un anticolonialiste au départ, c'est une famille de la noblesse bretonne, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il participe à la Deuxième Guerre mondiale.
Tout d'abord, la résistance à l'occupation nazie.
Bon, il devient héros de la Libération, il est dans la résistance, y compris avec les maquisards dans les Ardennes.
Il s'engage énergiquement contre le nazisme. Il refuse l'humiliation de l'armistice et de la collaboration et rejoint l'Angleterre. Ce qui lui vaudra d'être condamné à mort par le tribunal de Vichy. Il a été un des soldats les plus décorés de la France libre.
Donc déjà là, il est lié, disons, au peuple aussi par ce côté-là. Il n'a pas été que militaire. Ensuite, il va en Indochine. Mais déjà là, il commence à ouvrir les yeux. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme il dit, moi, qui avais lutté contre des occupants, je me retrouvais dans une situation où j'étais occupant d'un pays dont je ne suis pas sûr qu'il était le nôtre. C'était l'Indochine. Bon, déjà là, il se pose des questions, beaucoup.
Deuxième carrefour.
Et puis il va en Algérie.
Le refus de la torture en Algérie.
Et il va en Algérie surtout pour, en gros, lui, Bollardière, c'est aussi un homme de droiture, de fidélité. Donc il suit son unité, en fait. Il était parachutiste, quand même. Hein, bon.
Le général Jacques Paris de Bollardière refuse de subordonner l'action pacificatrice au préalable policier.
Il essaye de participer à l'aide au peuple algérien, à les sortir de la misère, comme le dit Germaine Tillon, on connaît le mot, la clochardisation. Hein, bon. Eh bien là, il se rend compte que c'est encore impossible. On ne leur reconnaît ni le droit s'ils ne sont pas d'accord, s'ils sont pour l'indépendance d'Algérie. On les torture, on les tue, on les massacre. Donc, Il en arrive, c'est une prise de conscience, et donc il est en rupture sur la guerre d'Algérie.
Après avoir tenté en vain d'alerter ses supérieurs, il demande à être relevé de son commandement en Algérie. Il rompt le complot du silence entretenu auprès de l'opinion publique afin d'attirer l'attention sur l'effroyable danger qu'il y aurait pour nous de perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre armée, comme il l'écrira en première page du journal Le Monde.
Si on peut dire, il devient contre la colonisation au vu de ce qu'elle aura été et de la guerre. Et ensuite, il se lance alors dans la non-violence active.
La troisième croisée des chemins mène mon père sur les voies de la résolution non-violente des conflits.
Et donc il va jusqu'au bout. Parce que Bollardière, moi je dis qu'à la limite, le plus intéressant de Bollardière, c'est à la fin, le résultat, le bout de son histoire.
Quand je considère mon passé, l'impression qui domine, c'est la continuité. J'ai voulu être militaire pour défendre certaines valeurs. La liberté, la justice, la dignité de l'homme. Cet objectif est toujours le mien, seulement j'ai changé de stratégie.
C'est sublime. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, après tout, je ne sais pas si je suis sartrien, mais qu'à un moment donné, on peut naître dans un milieu, on peut avoir un engagement à un moment donné, on peut avoir un parti pris, mais que dans la vie, si on a une conscience, on peut, au fur et à mesure des épreuves qu'on traverse, des réalités qu'on rencontre, on peut à un moment donné donc se forger des convictions et s'engager dans un combat, parce que on se dit que ce combat vient de ce qu'on traverse, de ce qu'on découvre, et pas du tout d'une idée toute faite qu'on s'est faite au départ.
Voilà, je trouvais intéressant, avant de partir pour la Colombie, de s'arrêter donc quelques instants pour l'occasion d'une inauguration de cette place générale de Bollardière, donc à Paris. C'était jeudi dernier. Évidemment que ce général, qui fut le seul à condamner, à dénoncer la torture, ça revenait à dire que les autres officiers, que l'état-major l'acceptaient ou bien se taisaient, chose qu'évidemment ils ne lui ont pas pardonné. Mais effectivement, Charles Sylvestre a raison, ce qui donne un certain sel au fait que cette place soit au coin de l'avenue de Suffren et de l'avenue de la Motte Piquet, c'est-à-dire tout près de l'école militaire de Paris. On reste encore quelques instants à cette cérémonie. C'est la voix de la femme qu'on entend, c'est Armelle Botorel, la fille du général de Bollardière, qui évoquait cette une du Monde où son père jadis s'exprimait. Aujourd'hui, la une du journal Le Monde, à l'occasion du voyage du président Sarkozy à Alger, c'est France-Algérie, le poids des vieilles rancœurs.
On peut regretter quand même qu'il y ait uniquement écrit « Compagnon de la Libération » sur cette plaque, non?
Oui, mais ça, c'est les lois du genre. Bon, cela dit, à un moment donné, je crois que c'est la fille du général de Bollardière qui a dit une chose magnifique, qui a dit
« La défense des droits de l'homme ne lui laisse aucun repos jusqu'au seuil de sa mort. Compagnon de la Libération, il devint compagnon de toutes les libérations. »
Compagnon de la Libération, devenu compagnon de toutes les libérations. Donc je pense que Compagnon de la Libération, ça prend un sens qui n'est pas que daté de 39-45. Et deuxièmement, c'est pourquoi Simone de Bollardière était très heureuse ce soir. Elle voulait que les Algériens soient là. Et les Algériens ont été là.
Nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque. J'appelle Madame de Bollardière à se rapprocher. Madame, je vous prends la
Hop, allez, voilà.
J'avais demandé qu'il y ait aussi des Algériens pour saluer l'honneur, le souvenir de mon mari. Parce que l'état dans lequel ils étaient et ce qui se passait pour eux n'était pas supportable pour lui. pour les Français non plus, mais pour les Algériens. Et je voulais que les Algériens soient aussi à l'honneur et qu'ils participent à l'honneur qui est rendu par le Paris et par le maire de Paris à mon mari qui les a aimés et qui les a défendus. Merci d'être là.
Elle voulait que les Algériens soient là. Et les Algériens ont été là. Il y avait Aitamel qui était un dirigeant de la révolution algérienne, mais il y avait Henri Allègue, qui est un Algérien, hein, de fait. Il est en France, il était Algérien, Allègue. Bon, il y avait Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, qui est mort sous la torture au printemps 57. Donc, évidemment, là, les Algériens ne sont pas sur la plaque, mais les Algériens étaient dans la cérémonie, et tout le monde comprend, enfin, j'espère, qu'il y avait à la fois l'hommage aux résistants et l'hommage à celui qui avait résisté à la torture pendant la guerre d'Algérie.
Il y a un contexte à l'hommage qui vient d'être rendu au général Boulardière.
Ben oui, parce que ce n'était peut-être pas prévu, je ne pense pas, par Delanoë, le maire de Paris. Mais il se trouve que on est donc jeudi, lundi qui vient, 3 décembre, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, est à Alger. Il va rencontrer Bouteflika. C'est une visite qui est annoncée comme assez importante sur le plan politique, commercial, etc. Il y a des histoires de contrats, comme toujours, évidemment. Bon. Mais il y a un autre contexte de cette visite, qui est le contexte de ce qu'on appelle le passé colonial, et le passé de la guerre. Puisque ça fait maintenant un peu plus de 50 ans que ça dure, il n'y a pas moyen que la France dise, à un moment donné, oui, nous avons pris la responsabilité de la colonisation. Ça, si je puis dire, ça remonte loin. Bon, et de tout ce que ça comportait, et de la guerre. Donc, il y a un contentieux. Comme on dit, il faut tourner la page. Bon, mais il y a une pétition qui va être rendue publique ces jours-ci, que j'ai signée, je ne suis pas le seul, heureusement, qui dit dépasser le contentieux franco-algérien. Et qui dit la page, tout le monde aspire à ce que tourner la page de la guerre d'Algérie, mais comme on dit, avant de la tourner, il faut la regarder en face, cette page. Donc, on attend des autorités françaises qu'elles veuillent bien reconnaître un jour une chose extrêmement simple, c'est qu'il y a eu guerre, c'était une guerre injuste qui n'aurait dû jamais avoir lieu, qu'il y a eu torture, qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu, et que donc la France a quelque chose, pas, on dit repentance, Sarkozy dit pas de repentance, mais personne ne lui demande repentance, ce n'est pas dans une assemblée de l'épiscopat, hein. On lui demande de dire ce qui s'est passé, et la responsabilité de la France dans cette guerre, c'est extrêmement simple. Donc, voilà le contexte. Et finalement, cet hommage au général de Boulardière, du point de vue du contexte, disons que ça tombait merveilleusement bien. C'est presque un petit message un peu à Nicolas Sarkozy en lui disant « Vous qui aimez les grands hommes, les Jaurès, Léon Blum, les Clémenceau, les Jacques Mandel,
les Guy Môquet,
pensez à Boulardière. Reconnaissez ce qui a été commis par la France. » Voilà.
Donc voilà, message à Nicolas Sarkozy, pensez à Boulardière.
Pensez à Boulardière.
C'est très facile, tu es ici. Ici, on tue tranquillement. Alors j'ai très peur pour Ingrid ici.
Je me suis allé à Guaviare et connu la guerrilla.
Moi je suis parti à Guaviare et j'ai rencontré la guerrilla.
À 13 ans.
Yo tengo casi 40 años y
hace 40 ans.
Y siempre hemos estado en guerra.
O sea, yo toujours été en guerre.
Han hecho muchos ataques, robándole, asesinando, masacres.
Hay beaucoup d'attaques, on nous a volé, on nous a assassiné, on nous a massacré.
Bueno.
Me matan o mato, pero voy a morir peleando.
Il me tue ou je les tue, mais là maintenant, on va se battre.
La base de Suisse. Escuchen, escuchen la base de Suisse.
Bienvenue.
Comment tu t'appelles?
Daniel.
Et toi? Et tout?
Lena.
Tout?
Maria Cristina.
Et tout?
Jasmine.
Jasmine.
¿Y tú?
Tatiana.
Tatiana. ¡Oh!
Vamos, cuidado.
Vamos. Pueblo querido, son gente de gran valor, los queremos como hermanos y luchamos con amor.
Hola.
Alors on est arrivé à San José de Apartado.
La communauté de paix. Les petites filles ont chanté l'hymne. Les paysans nous ont accueillis. Et nous voilà dans une baraque avec un toit en tôle, des murs en bois et bien sûr pour dormir, des hamacs.
Non, c'est pas un problème. Ah, je me suis un peu payé le... J'ai loupé un petit pont. Il y avait un petit pont.
C'est sûr. Je montais un fossé et j'ai pas vu le pont. Je me suis
payé. C'était dans le mode noir complet. Quoi.
Voilà, mais bon, c'est pas...
L'éclairage municipal n'est pas encore au point.
Ouais, mais on est pas... C'est parfait, c'est exactement le Chiapas de Marcos. C'est exactement le même, la même maison d'hôte, les mêmes... Almac, et tout ça, c'est incroyable, alors.
Voilà où nous sommes. Voilà où nous sommes. San José de Apartado. C'est au nord-ouest de la Colombie. On commence par là. On commence par là. C'est dans le département d'Antioquia et c'est pas loin de la ville d'Apartado. On est dans la montagne un peu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bananes dans cette région de bananeraies et qui est l'activité essentielle de cette région. Et c'est toute une histoire. Ça reviendra souvent au cours de ce voyage. Les républiques bananières qui furent imposées par United Fruit et aujourd'hui Chiquita Brand. Donc des bananes et mais évidemment un village très particulier, cette communauté de paix de San José de Apartado. Avant on a entendu la voix de Yolanda Peluccio, la mère d'Ingrid Betancourt, qui dit ici la mort est facile et effectivement la mort est facile, spécialement dans la région où nous sommes, où depuis longtemps s'affrontent les paramilitaires, les unités paramilitaires et la guérilla. Quand on évoque la figure d'Ingrid Betancourt, quand on voit le visage de cette femme devenue véritablement une icône en t-shirt, en chanson, en poster, en panneau sur les édifices publics dans notre pays, on se dit que cette brave femme, cette belle femme est prisonnière de gens extrêmement méchants. Et on nous dit oui, c'est les FARC, c'est la guérilla marxiste. Et ils sont méchants. Ça veut dire qu'ils sont des terroristes. Voilà. En un mot, c'est des terroristes. C'est comme les islamistes. Enfin, tous ces barbus qui veulent le mal de l'humanité. Ce qui, évidemment, est très commode pour, eh bien, pour tout ce qui n'est pas la gauche de Monsieur Delannoy, de dire tout le reste, eh ben voilà, ça mène toujours à ça, à l'horreur, aux otages, au sang, à la torture, etc. Or, en Colombie, il y a des gens qui torturent aussi quand même pas mal et qui commettent un certain nombre d'exactions et qu'on appelle les paramilitaires, les AUC, Autodéfense Unie de Colombie. Ils sont responsables, et ça fait l'unanimité, de 70% des meurtres et des crimes, des homicides, des enlèvements dans ce pays. Or, on ne parle toujours que des FARC, mais beaucoup plus rarement des paramilitaires. L'une des raisons pourrait être que il y a une connivence évidente, flagrante et connue depuis très longtemps entre les paramilitaires et les forces armées régulières de Colombie. Pourquoi donc? Parce que pour lutter contre la guérilla, avec la technique de la guérilla, l'armée est souvent impuissante. Et donc on a trouvé légitime entre guillemets, un moment de créer ces unités d'autodéfense. Sauf que, au nom de la lutte contre la guérilla, beaucoup, beaucoup d'exactions, de dérives, se sont produites jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la parapolitique. La parapolitique, c'est un scandale monstrueux qui éclate depuis déjà pas mal de mois en Colombie et qui mouille, qui éclabousse toute la classe, une grande partie de la classe politique actuellement au pouvoir, jusqu'aux chaussures même du président Uribe. Or, de cela, on ne parle pas. Ces temps derniers, on a beaucoup, beaucoup parlé de Hugo Chavez, le voisin de Monsieur Uribe, le voisin vénézuélien du président colombien. Ça, on en a parlé, beaucoup parlé. Bien sûr, les critiques sont tout à fait légitimes, mais curieusement, on parle beaucoup moins de Monsieur Uribe, le président colombien, qui est quand même actuellement dans de sales draps, et au moins pourrait-on parler de ces énormes scandales qui éclatent, encore une fois, je le dis, dans ce pays. Deux poids, deux mesures donc, et c'est l'une des raisons de notre présence ici. Dans ce village de San José de Apartado, où nous arrivons, il y a cette communauté de paix. Quelle est cette communauté de paix? Eh bien, ce sont des paysans qui, lassés tantôt d'être harcelés et otages ou victimes de la guérilla, tantôt harcelés, victimes des paramilitaires et des forces armées, ont choisi de créer un village indépendant qui résiste, qui résisterait à ces forces armées qui s'affrontent. Et c'est avec eux qu'on va commencer ce voyage dans cette nuit, dans ce village effectivement mal éclairé sur lequel il pleut terriblement, et nous sommes tout à fait bien dans cette maison de bois avec ces hamacs qui nous attendent.
Violent, ça monte, ça se calme et ça remonte à nouveau.
Le village
Le village est dans le noir. On devine d'autres maisons avec des familles autour. Là, il y a des gars qui arrivent quand même à regarder la télé. On découvrira tout ça demain. Mais c'est magique, hein. Regarde notre petite salle d'hôtes. Hein. C'est très réservé aux hôtes, ce passage. Avec les hamacs. Et Aaron, notre ami Aaron, qui attend qu'on continue l'entretien. Sauf que ça fait... Le bruit de la pluie est tel qu'on ne peut pas arriver à s'entendre. Alors on attend que ça se calme un peu. Voilà l'éclair. L'orage est pas loin. Hein. Je me demande si j'ai... Oh, c'est magnifique, là, t'as vu quand les éclairs éclairent la forêt, les arbres, c'est magnifique. Mais je me demande si j'ai vu un pays au monde où il pleut autant. Et on dit que c'est parce que Là, on est de l'autre côté de la cordillère. Hein. On est de l'autre côté de la cordillère, des côtés du Pacifique, et la cordillère arrête les nuages. Ce qui fait que c'est ça qui fait que là, il y a des pluies pareilles par ici.
Passer la nuit dans ce village jusqu'à demain. On se retrouvera à 15h dans ce village. Mais si on regarde bien, de temps en temps, les éclairs éclairent l'espèce de grande prairie qui est devant nous. Et sur cette prairie, si on regarde bien, 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 on voit des cailloux, des pierres peintes de couleurs assez gaies. Et puis sur chacune des pierres, un nom est écrit. Voilà, un nom, un prénom. Et ces noms, ces prénoms, sur ces pierres, sont les noms et les prénoms des paysans qui ont été tués par les paramilitaires, par l'armée, au cours de ces années dernières. Ils sont tous des leaders paysans qui se battent avec leur communauté pour résister à cette situation de conflit armé, de véritable guerre civile qui depuis tant d'années déchire la Bolivie. On commencera demain avec ces pierres et les noms de ces paysans qui sont aussi des Amérindiens. Parfois on rencontrera ces Amérindiens, les habitants d'autrefois, d'avant la colonisation, et puis aussi les Afro-Colombiens, ce qu'on appelle les Afro-Colombiens, c'est-à-dire, ou les Afro-descendants, c'est ainsi qu'on les nomme, qui sont les descendants des esclaves venus très nombreux dans cette Colombie jadis et pendant 3 siècles. Merci à tous. Reportage Renaud Lambert, Antoine Chao et Guy Vanctil. Merci à Marie-Françoise Quignard, Florence Bott et Sylvie Cravagna pour les lectures des coquineries qui mettent le rose aux joues dans l'enfer de la Bibliothèque Nationale. Le reportage sur le général de Bollardière, c'était Renaud Lambert. Merci à Charles Sylvestre, Simone de Bollardière, Armelle Botrel et Josette Audin. Et merci à tous les amis de la communauté de paix de Sainte-Rosée de Apartado, que nous retrouvons tous demain, Ron, Vladimir, Jesus Emilio, Javier Giraldo, l'ami de Chomsky et Diego Pérez. Et merci aussi à notre ami Laurence Mazur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Farid Chibani, Olivier Riotors, Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui attend également vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.